franceinter.fr.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans Remède à la mélancolie, l'émission qui tente chaque dimanche matin de fuir le vague à l'âme en compagnie d'un invité humaniste et de ses antidotes au spleen. Émission préparée en harmonieux fragments par Leïla Kourousselikoua, Coquelicot Vital et Laure Grand-Besançon, réalisée par Lilian Allôme et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Dimitri Gronoff. Et la gourmandise fantôme de ce matin, c'est un dessin animé de 1933 du producteur et animateur américain Hube Iwerks, et j'imagine que je le prononce très mal, connu pour être le créateur pendant sa collaboration avec Walt Disney du personnage de Mickey Mouse, dont il ne sera pas question ce matin malgré l'exaltation fébrile qui a dû provoquer cette aguiche derrière les postes du monde entier. Le dessin animé s'appelle Stratosphere et met en scène un petit garçon affabulateur, Willy Whopper, auquel son dentiste a administré tant de gaz sédatif qu'il se gonfle comme un ballon et s'envole dans l'espace. Son élévation nous permettra de rencontrer deux rigolos qui jouent du xylophone en transformant des animaux en objets, de swingants canards harpes et des robots bouchons qui se dédoublent en chantant. L'émission du jour étant placée sous l'égide de la sobriété, il me fallait évacuer ce plaisant maboulisme dès le générique. Voilà qui est fait, nous mettrons le lien sur le site de l'émission. Et aujourd'hui, notre apothicaire de l'âme est agriculteur, penseur, écrivain, humaniste et utopiste. Un être qui a l'idéal pour moteur, voilà une belle inspiration dominicale. Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Alors tout d'abord, dans cette émission, nous avons un petit rituel. Je vais vous demander de nous faire entendre votre humeur de ce dimanche matin, le bruit de votre âme, sans aucun mot, juste avec un bruit, celui que vous voulez.
Brouiller quand même.
C'est le bruit de votre âme, brouillé.
Oui, ce matin.
D'accord.
Demain, j'espère que ce sera autre chose.
Oui, j'espère aussi.
Ce sera mieux.
Avant d'égrener vos antidotes, parlons de spleen, Pierre Rabhi. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? Il paraît que vous n'êtes pas un grand mélancolique.
Non, je ne connais pas vraiment la mélancolie. J'ai des états d'âme évidemment variables. Je ne suis pas dans l'euphorie permanente ou dans l'exaltation et la joie permanente. Je suis comme tout le monde avec mes humeurs et justement ma météo, comme on dit, intérieure variable dans un monde extrêmement complexe dans lequel il est difficile de rester toujours dans le même état. Mais la mélancolie qui aboutirait peut-être presque à quelque chose de presque pathologique, si on peut dire, qui entraîne vers un état, disons, qui pourrait être très, très désagréable et très difficile à assumer. Je ne connais pas ça.
Il paraît que vous prenez tout ce qui vient comme des choses initiatiques.
Oui, absolument. C'est-à-dire que aussi bien les événements du monde, aussi bien dans lequel nous sommes impliqués, bien sûr, ce monde, évidemment, il a sa propre vie, il a ses propres événements. Alors les événements, soit on les prend comme qu'est-ce que j'ai fait au ciel quand ça va mal et Dieu merci quand ça va bien, ou alors on prend les choses comme étant liées à la variabilité et au mouvement du monde, et à ce moment-là, plutôt que de ne pas les accueillir, il faut plutôt les accueillir et essayer de savoir si on peut les décrypter. Parce que tout événement peut nous aider aussi à nous régler comme un instrument, quoi, à nous accorder en quelque sorte. Et à ce moment-là, ça nous apprend et ça nous élève. Ça peut nous élever selon l'attitude que nous avons. Soit ça peut nous élever, soit ça peut effectivement nous enfoncer encore plus dans la mélancolie et la tristesse.
Ça vous est arrivé déjà d'être terrassé par la douleur de façon à ne pas pouvoir agir dans l'instant ?
La vie m'a préservé de cela. J'ai eu ma part, évidemment, d'événements douloureux comme tout le monde. Mais de là à être accablé à un point ou terrassé à un certain point, Dieu m'en a préservé jusqu'à maintenant.
Quelle est votre première réaction quand vous sentez poindre la tristesse ?
Je pense que la tristesse peut aussi tout banalement, le foie qui ne fonctionne pas bien ou un organe qui n'est pas en état ou quelque chose que nous avons consommé qui ne va pas très bien. D'ailleurs, la preuve, l'alcool modifie l'humeur, il modifie beaucoup de choses, etc. Donc la nourriture n'est pas anodine, l'atmosphère n'est pas anodine dans ces choses-là. Nous sommes tellement sensibles à tellement de choses dans notre complexité que qu'évidemment, les choses peuvent être provoquées presque, on dirait, artificiellement par ce qui arrive, soit dans notre physiologie, soit dans notre environnement.
Et quand quelque chose sur lequel on n'a absolument aucun pouvoir arrive et que c'est une triste nouvelle, vous arrivez tout de suite à le transformer en action. Votre première réaction, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour transcender ça ou tirer comme enseignement.
Si c'est douloureux, je subis la douleur comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est là. Et c'est simplement cette douleur, en l'accueillant et en essayant de la comprendre, elle reste douleur, mais elle change de nature. C'est-à-dire que soit c'est la nature justement de la douleur douloureuse qui nous accable, soit c'est la douleur douloureuse, certes, mais qui permet aussi d'éveiller en soi-même ce qui peut l'apaiser sans recours à aucun artifice.
Et parfois faire naître de la beauté pure.
La beauté est en tout. Simplement, tout dépend du regard. Le regard et de la perception qu'on en a ou qu'on n'en a pas. Bien sûr, il y a les tragédies qu'on ne peut pas enjoliver, qu'on ne peut pas esthétiser certaines violences, certaines choses très laides de l'humanité. On ne peut pas les esthétiser. D'ailleurs, on le fait, on le fait très souvent. Le mythe du héros qui a bien tué, il est décoré, tout ça. Donc il y a être vigilant sur ce qui est à chaque instant le juste, le vrai. Voilà, veiller à cela. Et parfois, c'est même pas très facile de percevoir parce que dans le brouillard continu de nos esprits, de nos âmes et dans cette espèce de marasme permanent dans lequel nous pouvons être prisonniers, on peut ne pas percevoir justement derrière tout ce brouillard ce qu'il y a d'important à saisir pour notre évolution.
Alors aiguisons nos regards, chers auditeurs, préparez-vous, voici le sommaire. Dans quelques instants, Pierre Rabhi convoquera Apocalypse Now de Coppola, La planète au pillage de Fairfield Osborne, Beethoven, Socrate, son jardin, des contes traditionnels, une ferme, des montagnes, du silence, de l'air pur, et l'initiateur de réjouissances constantes à travers l'histoire, le bien nommé Couscous. Tout cela, c'est juste après Palm Trees de Baxter Dury, dans la playlist de France Inter, extrait du dernier album It's a Pleasure.
There's a shopping centre where your heart belongs. Palm trees and cocktails in the sun. Ships see glimpses of something very special. Like that, she comes home. All there is you and me right now. Standing underneath these trees right now. See glimpses, something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special.
Sitting
on a
tree.
Does she think she's special? Very, very special. This lonely trail of tears to where these artificial trees appear.
see glimpses of something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes en compagnie de Pierre Rabhi et l'on commence, paradoxalement, par un chef-d'œuvre absolu du cinéma, sublime et très oppressant.
Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fils. Il n'y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là.
Allez, dégagez, dégagez, dégagez!
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niak, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Elle ne durera pas toujours, cette guerre.
Vous avez choisi le magistral Apocalypse Now de Coppola, sorti en 1979, adaptation libre du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, l'un des premiers films abordant directement la guerre du Vietnam. Vous l'avez choisi, je vous cite, pour la gravité et la profondeur du sujet. Mais Pierre Rabhi, pourquoi l'avoir choisi comme remède à la mélancolie?
Non, je ne l'ai pas choisi comme remède à la mélancolie. Je l'ai choisi parce que je trouve qu'il y a là la façon qui m'a paru assez suprême d'exprimer finalement l'absurdité de la violence, de la guerre, de l'esthétisation de la violence, de la justification permanente de la violence, de toutes ces choses qui en fait mettent bien en évidence la tragédie de l'espèce humaine, spécifiquement la tragédie de l'espèce humaine. Et c'est pour cette raison que j'ai trouvé, en analysant les choses, point par point, enfin pas par point, disons séquence par séquence, je l'ai fait il y a quelque temps, et ce cheminement d'un individu qui, en fait, on part à sa recherche parce qu'il a transgressé, parce qu'il n'obéit plus, parce qu'il ne répond pas. Et puis, chemin faisant, on dit qu'il a semé l'horreur. En fait, la guerre est faite pour l'horreur. Et il n'a pas fait autre chose qu'appliquer la règle en semant l'horreur. Simplement, il a semé l'horreur hors des règles. Il fallait qu'il le fasse, mais dans les règles. Et ça, c'est vrai, véritablement ce qu'on peut trouver dans le message de la justification de la violence et de la guerre. Et à la fin, quand on le trouve, enfin, quand on finit par le découvrir, il est dans une ambiance sombre, avec un clair obscur, et même ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a une partie du visage éclairée, l'autre dans l'obscurité. Et c'est vraiment le symbole de ces deux éléments qui évoluent ensemble entre l'horreur et la lumière. Et le discours et le renvoi qu'il a fait à celui qui est venu le chercher parce qu'il avait transgressé, le renvoi qu'il lui fait finalement, et magistral parce que finalement il dit, mais il dit vous êtes comme moi, est-ce que vous pouvez me donner des leçons de morale alors que vous êtes vous-même dans l'horreur? Et c'est pour cela que ça m'a ramené à dire comment est-ce qu'on peut décrire la violence? Elle n'est pas seulement dans la guerre, elle est aussi dans la relation humaine, elle est aussi contre la nature, elle est aussi, je veux dire, la violence se décline en mille façons, en mille expressions. Et quelquefois on l'a en soi, en la récusant, mais on l'a en soi-même. Et on peut aller manifester contre ceci, contre cela, parce qu'on trouve que c'est injuste, et rentrer chez soi, et mener une vie très très difficile à ceux qui nous entourent. Je veux dire, il faut la déceler là où elle est. Et en fait, quand on creuse vraiment et honnêtement, on la découvre où? On la découvre en nous-mêmes. Et c'est en nous-mêmes qu'il faut l'éradiquer. Et le remède suprême à l'éradication de la violence, c'est l'amour. Voilà. Et quand il y a amour, il ne peut pas y avoir cohabitation, amour et violence, amour et haine. C'est incompatible. Si c'est le vrai amour, évidemment, l'amour, on peut le trafiquer, on peut le mettre un peu à notre convenance en fonction de comment ça nous arrange. Mais l'amour au sens essentiel, je pourrais dire fondamental du terme, c'est une énergie positive absolument extraordinaire qui est la seule capable de changer le monde.
Parlons de quelque chose de laid, sous toutes ses formes et jamais esthétisé.
J'aime pas les OGM, moi, tout ce qui va avec, qui dérègle la planète, pour que des malhonnêtes, du fric dans les mallettes, prennent pour des pigeons. J'aime pas les OGM, moi, tout ce qui va avec, qui pollue la planète, à cause de ces bandits, eh bien moi j'ai fini dans le ventre d'un gros poisson.
Vous entendez « Je n'aime pas les OGM, moi » de Bivouac. C'est la première fois que l'on arrive aussi vite dans l'émission à la chose qui plonge à coup sûr dans la tristesse, mais elle s'enchaîne parfaitement avec Apocalypse Now. Vous avez écrit, Pierre Rabhi, en plus des OGM, que ce qui vous plongeait dans la tristesse, c'était les canons, les fusils, les bombes atomiques. Il faut arrêter tout ça et s'occuper de la misère humaine. Vous vous définissez vous-même comme un humaniste utopiste, Pierre Rabhi. Pensez-vous véritablement que l'humanité puisse faire marche arrière ?
Marche arrière, non, mais changer d'orientation et de direction, oui. En prenant connaissance de, disons, des antériorités de ce qui a précédé, au lieu de considérer cela comme les profits et pertes, il faut quand même que ça soit suffisamment initiatique pour que ça nous aide à orienter l'histoire autrement qu'elle ne l'est. Retourner en arrière, modifier les choses, non, on ne peut pas. Mais par contre, regarder vers l'avant et essayer d'orienter vers le positif, oui. Mais cela implique évidemment une conscience extrêmement profonde et une volonté extrêmement profonde.
Si on n'abandonne pas les pratiques agricoles actuelles, par exemple, on ne pourra plus subvenir à nos besoins alimentaires à partir de 2050. On le sait. Pourtant, on continue de détruire la source même de la vie. Vous êtes l'un des pionniers de l'agroécologie. Vous développez de nombreuses structures dans le monde autour des idées d'autosuffisance, de respect de la terre et de l'homme, de solidarité. Bref, tout le contraire de ce vers quoi tend la société à chaque seconde qui s'écoule. N'êtes-vous jamais découragé ?
J'ai eu mes phases de découragement, mais à un certain moment, vous dites je fais le constat des faits, donc je ne les édulcore pas. Ces faits sont des faits. Et il y a le monde, et il y a mon monde. Il y a le monde que je peux construire moi. Et dans ce monde qui est le mien, eh bien, il n'y a pas ces horreurs. Et donc, je tente la cohérence avec moi-même. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Autrement, il n'y a plus qu'à se supprimer. Se supprimer pour sortir en quelque sorte du cirque, de ce cirque dans lequel nous sommes prisonniers. Il n'y aurait pas d'autre solution que de le quitter volontairement ou alors d'ajouter à la violence encore plus de violence. C'est malheureusement ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous exacerbons la violence pour finalement la fuir.
Alors appelons Socrate et Jean Gabin à la rescousse.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Jean Gabin, je sais. Pour illustrer votre système de pensée anti-spline, Pierre Rabhi, c'est la maxime de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. En quoi est-ce consolatoire ? C'est l'humilité absolue, en tout cas.
C'est pas consolatoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement apaisant. C'est-à-dire qu'à une période de ma vie où j'étais beaucoup dans des questionnements sur ma double culture, qui a raison, est-ce que c'est l'islam, le christianisme, etc., etc. Toutes ces questions, le nord, le sud, la tradition, la modernité, enfin tout ça m'embrouillait. J'ai fréquenté les philosophes pour essayer d'être aidé par eux et pour atteindre quelque chose qui soit une certitude, enfin apaisante. Sauf que j'ai découvert que les philosophes ne s'entendaient pas non plus. Il y avait pas une philosophie, il y avait des philosophies, et que ces philosophies pouvaient même être contradictoires et génératrices d'antagonisme et de violence. Et c'est pour ça que la lecture du grand Socrate m'a amené, qui lui cherchait la quête de la vérité, en quelque sorte, par rapport à des sophistes qui, eux, jouaient à la logique. Eh bien, quand cette formule que vous avez prononcée, tout ce que je sais, je ne sais pas, ça veut dire que je ne suis pas ignorant. Par contre, oui, je suis savant parce que je sais que je ne sais pas. C'est pas l'ignorance qui provoque Socrate, c'est-à-dire nous faire rentrer dans une forme de réalisme et d'humilité. Ce que nous savons, c'est ce que nous pouvons appréhender avec notre raison. La raison étant limitée, je ne vois pas comment un système illimité peut en quelque sorte rendre compte de l'illimité. Donc il y a une contradiction très très importante. Et c'est pour ça que cette formule a été pour moi une formule magique. Quel est l'être humain qui aujourd'hui peut proclamer qu'il sait ? Puisqu'en plus, le savoir, quand on fait le tour de la planète, ce que savent les uns, c'est ignoré par les autres, et la vérité des uns est contraire à la vérité des autres, et donc dans une confusion totale. Et cette formule m'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a mis véritablement au cœur de la réalité du monde actuel.
Alors après une telle interrogation, cédons à la décadence de la raison en donnant à écouter Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, pas besoin de permis. écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes toujours en compagnie de Pierre Rabhi et cela fait longtemps que nous ne nous étions pas inquiétés pour la planète et ce sera chose faite grâce à votre sérum littéraire, un véritable cri d'alarme écrit en 1949 par l'ancien président de la Société zoologique de New York. C'est La planète au pillage du paléontologue Fairfield Osborne, un livre qui a été réédité en France grâce à vous, vous en avez d'ailleurs rédigé la préface, et à votre ami Jean-Paul Capitani. Après de nombreuses années d'obstination, comment avez-vous découvert ce livre ?
Disons que si le hasard existe, c'est par hasard. Si le hasard n'existe pas, c'est que ce livre était très important dans mon itinéraire d'existence et le ciel l'a mis entre mes mains. Voilà, et c'est à partir de là, ça a été pour moi un livre initiatique très très important parce qu'il reprend en quelque sorte d'une façon générale et très scientifique l'impact de l'espèce humaine sur la planète depuis les origines. En quelque sorte, il incriminait en quelque sorte l'espèce humaine dans sa densité. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, que c'est parce que nous étions trop nombreux à l'époque. Il y avait 2 milliards d'individus que ça va très mal. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois simplement que la gestion des biens et des ressources de la planète a été faite plutôt sur l'avidité, l'accumulation, la destruction, etc. Et que la planète est tellement, tellement riche de ressources que je crois que certains ont fait la preuve qu'avec 10, 12 milliards d'êtres humains sur cette planète, tout le monde devrait être nourri par le fait même de la puissance de la vie elle-même.
Comme vous venez de le dire, Pierre Rabhi, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il défend ses arguments d'un point de vue scientifique. Par exemple, un moment pour parler du racisme, il en démontre l'absurdité très simplement en disant que d'un point de vue biologique, tous les êtres humains peuvent se reproduire entre eux, quelles que soient leurs origines.
Absolument.
Ce qui prouve bien qu'on fait partie de la même espèce, il n'y a pas d'inférieur contrairement aux animaux.
Oui, absolument.
Il y a aussi une poésie dans ce livre, lorsqu'il parle des insectes, des animaux, du fait qu'il fasse beau sur Mars. Et on apprend des choses, par exemple, la guerre, telle qu'on l'a fait entre êtres humains, n'existe dans aucune autre espèce humaine, sauf chez un certain type de fourmis.
Oui, ce qu'il faut signaler, c'est que ce livre a été salué par Einstein, par Devoto, par Huxley, par tout ce qu'on appelait Roosevelt, etc. Tout ce qu'on appelait les grands esprits de l'époque quand ils ont accueilli cet ouvrage. Ils ont été bouleversés par la vérité qui s'en dégage. Donc c'est très important. Et ce que vous venez de dire, c'est-à-dire concernant la querelle, la dualité, les conflits, etc., est très important parce qu'en fait, l'être humain a un tout autre comportement que les autres espèces. Et même dans son rapport à la vie, je dis souvent quand un lion mange une antilope, il digère son antilope. Et j'ai vu même des documentaires où le lion repue, rassasié, regarde passer un troupeau d'antilopes sans aucune agression. Mais l'être humain, lui, veut accumuler.
Il ferait une banque d'antilopes, comme vous le dites dans votre autobiographie.
Ni entrepôt d'antilopes pour en faire du profit. La véritable logique de la vie, intelligence de la vie, c'est prélever légitimement ce qui nous est nécessaire pour notre survie. Si un lion est affamé et que je me trouve à proximité, il est évident qu'il va peut-être... Enfin, il n'aura pas grand-chose à manger, mais enfin, il est évident qu'il va peut-être m'agresser. Mais il ne faut pas confondre agression gratuite comme ça, comme quand on se divertit à la chasse ou autre, par l'agression qui est l'agression de survie. Ce n'est pas du tout la même chose. Et malheureusement, l'être humain, il n'est pas dans l'agression de survie seulement. Il est dans une agression qui est d'une toute autre nature.
Nous avons abordé des sujets graves. Profitons à présent d'une accalmie dans l'une de vos oasis, Pierre Rabhi.
Je suis un simple jardinier qui n'a rien à vous raconter de bien malin. Je ne suis pas un beau parleur. On ne fait pas la cour aux fleurs, mais le jardin. Je suis un simple jardinier et de plus modeste métier. Je n'en connais point de plus joli, je n'en connais guère.
le simple jardinier de Jean Constantin pour accueillir l'activité qui vous grise, en toute sobriété bien sûr, travailler dans votre jardin, produire vos légumes, retrouver la cadence juste. Qu'est-ce que c'est exactement la cadence juste? C'est celle de la nature, c'est celle du corps humain même qui obéit à un rythme sans doute lié à celui de la nature et qu'on tait trop souvent?
Oui, oui, bah c'est-à-dire que je n'apprends rien à personne en disant que nous sommes quand même notre organisation. L'organisation de notre vie est fondée sur la frénésie, c'est-à-dire sur un temps suractivé. D'ailleurs, la formule « ne pas perdre de temps, gagner du temps », etc. Même dans les stades, on a la victoire sur un dixième de seconde, quitte à faire exploser ses poumons, mais enfin, on a quand même la victoire sur un dixième de seconde. Mais bien en évidence que notre rapport au temps est un rapport pathologique. Et quand on retourne, je vais dans mon jardin, j'ai renoncé à beaucoup de choses, sauf à mon jardin, et j'ai dit « le jardin est non négociable ». Pourquoi ? Parce que quand je sors de cette frénésie, eh bien, ça me fait sortir cette frénésie. Et cette espèce de tranquillité avec laquelle les processus se font, de germination, la plante qui pousse, le plant de tomate, mettons, qui s'épanouit, eh bien, il le fait à sa cadence. Bien sûr, je peux utiliser des artifices pour accélérer, mais c'est là qu'on retrouve la cadence juste. Et cette cadence, paradoxalement, non seulement on la trouve bien entendu dans le cycle des saisons et tout cela, le temps, le froid, le chaud, etc., mais on la trouve à soi-même. C'est-à-dire, si on écoutait un peu plus son cœur, on se rendrait compte qu'il est cadencé. Et que tout est cadencé en nous. Notre système digestif est cadencé et tout. Nous sommes en quelque sorte... une entité biologique cadencée. Et le problème aujourd'hui, c'est quand on a du stress, etc., c'est qu'on outrepasse en quelque sorte la cadence juste pour aller vers la cadence artificielle du temps argent, du temps qu'il ne faut jamais perdre, qu'il faut toujours gagner, qu'il faut toujours, etc. Et donc, du coup, s'il y a aujourd'hui des stress et quelquefois des grands mal-être, c'est lié aussi à cette notion du temps suractivé et qui évidemment traduit une frénésie à laquelle nous essayons de répondre en inventant des machines qui puissent nous faire supporter la frénésie sans se poser la question « pouvons-nous éradiquer la frénésie ?»
Bon, faisons quelques pas à proximité de votre jardin.
Nos racines sont notre médecine, nos musiques, nos danses sont notre délivrance. Amis extraordinaires, venus de l'ordinaire, laissons-nous envoûter par les chamans troubadours. Tam tam dans les Cévennes, tam tam dans les vallées, les plaines.
Tam Tam des Cévennes de Spi et la Gaudriole, quel titre drôlatique déniché pour illustrer votre centre du monde. C'est votre ferme Cévenole, ses paysages, les montagnes environnantes, le silence et l'air pur. Voilà le tableau que vous en dressez. Vous êtes installé là-bas en Ardèche dans les années 60, c'est ça, avec votre femme? Et vous avez élevé vos 5 enfants là-bas?
Voilà.
Et vous êtes resté de nombreuses années sans eau ni électricité?
Oui. Très peu d'eau. Sans eau, c'est invivable, mais très peu d'eau et pas d'électricité, pas de téléphone. Une terre aride, un chemin à peine praticable par temps de pluie. Voilà. Et c'est pourquoi s'installer dans ce lieu? C'est parce qu'il est beau, tout simplement. Il est très beau. On voit 17 clochers. On a un paysage de montagnes bleues, des lointains magnifiques, un silence magnifique, un bois étrange qu'on appelle le bois de paille-olive, qui est un bois qui intéresse beaucoup les scientifiques parce que c'est une espèce de forêt rocheuse avec des végétaux intercalés dans cette forêt rocheuse. Tout pourrait être dans la magnificence. Et le soir, quand par beau temps, vous avez une voûte céleste absolument splendide, surtout les soirs d'été, vous êtes en rapport direct avec un cosmos constellé magnifique. Et le langage des étoiles, le langage de la lune, enfin voilà. Donc il y a sur cette planète la possibilité d'être dans une sorte de paradis.
Dans quelques instants, nous parlerons de Comte, de Mets délicieux et de Beethoven. C'est juste après Claude Nougaro, Je suis sous, c'était en 1964.
Je suis sous, 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 sous ton balcon. Comme Roméo. Oh, oh, Marie-Christine. Je reviens comme l'assassin sur les lieux de son crime. Mais notre amour n'est pas mort, hein? Dis-moi que non. Depuis que l'on s'est quitté, je te jure que j'ai bien changé. Tu ne me reconnaîtrais plus. Et d'abord, je ne bois plus. Je suis rond, 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 rongé de remords. Je suis un salaud. Oh, Marie-Christine, je t'en prie, encore une fois, montre-toi magnanime. Donne-moi une chance encore, dis, recommençons. En moi, il y a du bon aussi. Ne me fais pas plus noir que je suis. Je suis bourré, bourré, bourré de bonnes intentions. J'ai trouvé du boulot. Wow, Marie-Christine, c'est sérieux, j'ai balancé mon dictionnaire de rime. Je n'écris plus de chansons, non, je travaille pour de bon. Mes copains que tu n'aimais pas, maintenant ils rigolent sans moi. D'ailleurs, je te les ai amenés, tu n'as qu'à leur demander. On est sous, 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 sous ton balcon, comme Roméo. Oh, oh, Marie-Christine, ne fais pas la sourde oreille à ce cri unanime. Je t'en supplie, mon trésor, réponds, réponds, Marie-Christine, ne me laisse pas seule. Bon, puisque c'est ça, je vais me saouler la gueule.
Remède à la mélancolie sur France Inter, nous continuons notre balade dans le jardin de l'âme de Pierre Rabhi. Vous aimez lire des contes traditionnels de tout pays et culture. Vous êtes l'initiateur du mouvement pour la terre et l'humanisme Colibri, et ce nom n'a pas été choisi par hasard puisqu'il s'inspire d'une légende amérindienne. Est-ce que vous pourriez la raconter aux auditeurs ?
Disons, dans un contexte où on a l'impression d'une espèce d'impuissance, Où le sort semble nous imposer ses lois. J'étais dans cette préoccupation, mais qu'est-ce qui pourrait, en quelque sorte, donner une résonance à cette situation-là ? Et j'étais en train de lire une revue, et dans cette revue, j'ai vu une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, sauf le petit colibri qui, lui, ce petit oiseau gracieux, gracile, qui va chercher quelques gouttes d'eau dans son bec, les jette sur le feu et s'active et s'active et s'active. Et le tatou qui l'observe depuis un bon moment lui dit : Colibri, tu ne penses tout de même pas que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? Le colibri le regarde droit dans les yeux, lui dit : Je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et c'est à partir de là que ça a été le choc pour moi. Effectivement, si chacun de nous, vraiment, fait sa part pour construire un monde différent, pour avoir une relation humaine différente, etc., nous pourrions vraiment triompher du sort.
Inspirons-nous des colibris en ce dimanche, et j'espère, chers auditeurs, que vous êtes en appétit.
Centre gastronomico-nucléaire d'Oran, laboratoire Delta 13, niveau 2, objet, étude, individu, sexe masculin, numéro 4, après ingestion couscous synthétique à base uranium, depuis mort du blé, particules se moulent en transmutation, expérimentation.
Et vous pensiez que j'avais épuisé mon stock de noms de chansons farfelues? Eh bien non, vous venez d'entendre Odeur au pluriel chanter couscous bouletium. Pourquoi vous demandez-vous sans doute devant un tel mystère verbal? Parce que le plat qui vous réconforte, Pierre Rabhi, c'est tout simplement un bon couscous.
Pas seulement, la blanquette de veau aussi.
Ah mais vous nous avez dit couscous, on apprend des choses dans cette émission.
C'est dans ma tradition. J'aime beaucoup par exemple la cuisine asiatique. Quand je viens à Paris, je cherche toujours un bon restaurant de bonne cuisine asiatique. Donc le couscous, certes, je me régale avec le couscous, mais pas seulement.
Il paraît que le couscous a vu le jour il y a des milliers d'années en Chine. Donc vous voyez, tout est cohérent finalement.
Oui, je ne savais pas.
L'esprit et le corps semblent en harmonie, mais l'un des capricieux cinq sens exige que l'on finisse en parlant de lui. Voici donc, pour le contenter, l'œuvre d'art qui vous enchante. Vous entendez le quatuor à cordes numéro 4 en ut mineur de Beethoven, interprété par le quatuor Turner. Les quatuors de Beethoven vous ravissent, Pierre Rabhi.
Oui.
Vous en écoutez souvent ?
Moi maintenant, mais j'ai beaucoup écouté les quatuors parce que je trouve que, justement, dans ces quatre instruments qui s'harmonisent et qui expriment... je suis très très sensible à ce mode d'expression du quatuor. Beethoven en particulier.
Quelles émotions ça suscite chez vous de les écouter? J'imagine que quand vous écoutez Beethoven, vous ne faites rien d'autre. C'est prendre le temps à nouveau, la cadence naturelle.
Oui, ça, disons que ça introduit dans l'âme et dans la psyché un climat très particulier qui me convient plus que les symphonies. J'aime beaucoup toutes les autres modes d'expression musicale, même hors du classique, il y a des musiques qui m'enchantent aussi. Je ne suis pas que classique, les musiques traditionnelles aussi, enfin tout cela. Mais les quatuors exercent sur mon esprit ou sur mon climat intérieur quelque chose qui est de l'apaisement et de la profondeur et de l'intelligence. Je trouve ça très intelligent.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Beethoven en a surtout composé dans les dernières années de sa vie. Et vers 1816, il fut atteint d'une surdité totale. Oui. Et pour les composer, il se mettait assis par terre sur un piano sans pied pour ressentir les vibrations, puisqu'il ne pouvait plus entendre la musique qu'il composait. Et pourtant, c'est sublime.
C'est sublime. Parce que peut-être qu'il a transcendé en quelque sorte les éléments ordinaires, matériels. C'est des gens comme Mozart et tout ça, ils avaient la musique en eux. Ce qu'ils recherchaient, c'est comment la faire sortir de leur intérieur vers l'extérieur, comme toute création. Mais eux, peut-être, par la surdité, Beethoven m'a beaucoup touché. Surtout que cette surdité a été provoquée, évidemment, par un accident, puisqu'il paraît, selon ce que l'on en dit, que son père lui tapait la tête sur le piano, le père était très violent, etc. Et ce qui m'a beaucoup bouleversé, c'est que cet être qui a été victime de cette violence d'un père outrancier est concentré en lui des expressions aussi puissantes, aussi fortes et en même temps aussi douces.
On arrive à la fin de cette émission, Pierre Rabhi. Est-ce que vous vous sentez toujours brouillé comme au début ?
Moi, grâce à vous, parce que quand on est sollicité par des questions, évidemment, on se dépêche quand même d'être aussi clair que possible pour pas raconter. Peut-être que j'ai raconté n'importe quoi, j'en sais rien, aux auditeurs d'en juger, mais ça m'a aidé à me clarifier parce que là, on est au pied du mur et qu'il ne faut pas dire n'importe quoi.
Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Pierre Rabhi.
Merci.
On peut lire la jolie réédition de La part du colibri, l'espèce humaine face à son devenir, illustrée par Pascal Lemaître aux éditions de l'Aube, ainsi que deux autres rééditions chez Actes Sud, Vers la sobriété heureuse, et vos entretiens avec Olivier Lenaire, Pierre Rabhi, Semeur d'espoir. À signaler aussi, avec Jean-Marie Pelt, Le monde a-t-il un sens chez Fayard, apparaître le 26 février prochain, le livre auquel vous avez participé, Écologie du 21e siècle, sous la direction d'Hervé Kampf, c'est au Seuil, et en DVD à voir absolument. Absolument, le film que Marie-Dominique Delsing vous a consacré, Pierre Rabhi au nom de la Terre. Et chers auditeurs, allez voir le mouvement des femmes semencières, Terre et humanisme et Colibri. Au revoir et merci encore.
Merci.
Vous retrouverez, chers auditeurs, tous les remèdes évoqués sur la page internet de l'émission. J'espère que vous êtes à présent aussi enjoués qu'une pomme de pin qui, une fois de plus, a réussi à viser la tête d'un humain en tombant. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de l'anthropologue et philosophe Malek Chebel.